Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. La Cour suprême israélienne devrait se prononcer la semaine prochaine sur le tracé du mur de séparation entre Israël et les territoires palestiniens. Objet du litige, cette fois, un ensemble de vallées situées à quelques kilomètres de Jérusalem. Le site de Batir a été classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO voici quelques jours. Ce qui n'empêchera peut-être pas l'irréparable de se produire, compte tenu de la situation conflictuelle actuelle. Nous en parlons avec le vice-président de Patrimoine sans frontières, association fortement mobilisée dans ce dossier. Les observateurs de France 24 sont comme toujours très éclectiques. Ils s'intéressent à la guerre de la com entre Al-Qaïda et l'État islamique d'Irak et du Levant, mais aussi à la fin d'un oasis en Iran, oasis devenu désertique. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
La Cour suprême israélienne doit se prononcer la semaine prochaine, le 30 juillet, sur le tracé du mur de séparation que construisent les Israéliens long de leurs frontières avec les territoires palestiniens. Le recours formulé auprès de la Cour concerne le village de Batir et sa proche vallée, la vallée de Crémizan, qui se trouve en contrebas de Bethléem, à quelques kilomètres de Jérusalem, moins d'une quinzaine. Pour en parler, nous sommes avec Jad Tabet, vice-présidente de l'association non gouvernementale Patrimoine sans frontières. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également architecte et expert auprès du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous y reviendrons tout à l'heure.
Tout à fait.
Alors, il faut dire que le village de Batir et sa proche banlieue, si je puis dire, possède un système d'irrigation très particulier. Qu'a-t-il d'unique ?
Oui, effectivement. En fait, ce village et essentiellement les vallées qui l'entourent constituent un paysage culturel qui date de, dit-on, 4000 ans. On a découvert des restes d'implantations cananéennes. On pense qu'une ancienne implantation juive qui s'appelait le Bétar était là. Vous voyez la toponymie, Bétar, Batir. Au temps des Romains, la zone s'appelait Bet-Ter. Donc il y a une continuité toponymique dans l'histoire. Et ce qui caractérise un peu ce paysage culturel, c'est la présence d'anciens systèmes de culture avec des terrasses, puisque ce sont des vallées, hein, de très anciennes terrasses, et un système d'irrigation particulier avec de nombreuses sources, de nombreux puits, des systèmes de rétention d'eau comme des réservoirs, et un système ancestral de distribution de l'eau entre les agriculteurs. C'est-à-dire qu'il y a un système qui permet de distribuer de façon démocratique, si vous voulez, l'eau pendant les jours de la semaine, avec une sorte de régularité de métronome qui persiste jusqu'à présent.
Et qui existe depuis
2000 ans. Depuis 2000 ans, je n'en sais rien, mais historiquement, qui effectivement, on sait par exemple dans des textes que depuis le XIIe siècle, on parlait déjà de ce système d'irrigation particulier.
Alors, qu'est-ce qu'on produit dans cette région ?
Alors, il y a de la vigne, d'abord. Il y a des cultures maraîchères. Et sur les hauteurs, il y a des oliviers. Il y a donc des pressoirs d'olives, etc.
Quel impact aurait la construction de ce mur, précisément, sur cette partie de la vallée ?
Oui, une des particularités, justement, de ce paysage et de ces vallées, c'est que aujourd'hui, il y a 8 grandes familles, vous savez, c'est les clans méditerranéens, qui s'occupent des cultures dans ces vallées. Et une des particularités, c'est que une partie des territoires ou des terrains agricoles qui dépendent de ces familles et qui appartiennent à ces familles sont situées de l'autre côté de la ligne de démarcation qui a été marquée après 1948. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des négociations dès la fin des années 40, début des années 50, entre le gouvernement israélien et les habitants de Batir. Et même jusqu'à présent, les habitants de Batir avaient le droit d'aller de l'autre côté de la ligne de démarcation pour cultiver leurs terres.
Malgré les différentes intifadas,
malgré les différents problèmes. Et aujourd'hui, la construction du mur va passer au milieu de ce paysage culturel et va finalement détruire totalement la valeur de ce paysage et cette continuité ancestrale qui est présente dans ces vallées. Vous savez, quand on parle de paysage, on ne parle pas seulement de paysage dans le sens visuel. Le paysage, c'est aussi des traditions culturelles, c'est aussi un contenu social, c'est aussi un contenu... Voilà. Donc,
Alors, qu'est-ce qui explique que la Cour suprême ait autant de mal à se prononcer, puisque puisque l'affaire a quand même démarré il y a une bonne dizaine d'années où le tracé était fixé et puis finalement, 10 ans après, rien n'a bougé et la Cour suprême n'a toujours pas pris de décision.
Il y a eu plusieurs recours qui ont été présentés, y compris avec l'appui d'une association israélienne de protection de la nature. C'est vrai que ce site a une valeur un peu symptomatique parce que c'est aussi symptomatique des relations qui peuvent exister malgré la guerre et malgré la répression, de relations cordiales qui peuvent continuer à exister de part et d'autre. Donc, quelque part, ça a une valeur symbolique et il semblerait que la Cour suprême israélienne ait du mal à venir décider d'un coup qu'on allait couper ce lien, hein, couper cette relation. Hein,
elle a notamment demandé, dans le courant du premier trimestre 2014, elle a demandé à l'armée de justifier le fait de placer son mur à cet endroit et pas à un autre.
Oui, d'autant plus qu'il n'y a jamais eu d'incident, si vous voulez, armé dans cette zone. Il y a toujours eu une sorte de cohabitation qui fonctionnait très bien jusqu'à présent. Donc il n'y a pas de vraie justification à ce mur au niveau sécuritaire.
Je disais au début de notre entretien que vous êtes expert auprès de l'UNESCO, vous êtes même membre de la commission du patrimoine de l'UNESCO. Du comité du patrimoine. Est-ce que le fait que l'UNESCO ait décidé de classer ce site autour du village de Batyr au patrimoine mondial peut changer les choses?
Écoutez, normalement, le classement d'un site ou l'inscription d'un site sur la liste du patrimoine est quelque chose d'important, puisque la Convention du patrimoine mondial exige ou demande aux États parties qui ont signé cette convention, dont Israël et la Palestine, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les patrimoines qui sont dans leur territoire, mais aussi le patrimoine situé dans le territoire des autres États parties. Et donc, quelque part, le fait d'avoir signé cette convention fait que ça va rendre très difficile pour l'État d'Israël de venir dire « nous allons construire un mur et donc mettre en danger ce patrimoine ». D'autant plus que le site a été classé non seulement sur la liste du patrimoine, mais sur la liste du patrimoine en danger. C'est-à-dire que l'UNESCO a reconnu le fait que la construction du mur pouvait mettre en danger ce patrimoine classé.
Alors, justement, on disait que la Cour suprême avait beaucoup de mal à se prononcer. Est-ce que vous voyez, la semaine prochaine, la Cour suprême prendre une décision ou alors peut-être repousser au calende?
J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question.
En tout cas, pour vous, il est urgent de ne pas construire ce mur à cet emplacement.
C'est clair. D'ailleurs, cette urgence a été reconnue par le World Monument Watch. Le World Monument Watch a classé en 2014 Batyr et le site autour sur la liste des 67 sites les plus menacés en 2014. Donc, quelque part, c'est aussi une reconnaissance du danger.
Est-ce que le mur, dans cette zone-là, menace d'autres sites que le site de Batyr et la vallée de Trémizan?
Enfin, dans cette zone, il menace essentiellement toutes les vallées avoisinantes.
Pas seulement Trémizan ou Batyr. Merci Jade Tabet, vice-président donc de l'association non gouvernementale Patrimoine sans frontières. Je rappelle que vous êtes également expert auprès du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci.
Merci à vous.
Orion Hebdo sur RFI.
Les observateurs de France 24 continuent inlassablement de nous envoyer leurs informations insolites, humoristiques ou révoltées. Bonjour Sarah Grira.
Bonjour Eric.
Vous êtes l'une des journalistes qui collecte ces informations des observateurs et comme chaque mois, vous avez sélectionné 3 de ces informations pour Orient Hebdo. On commence d'ailleurs par une observation directement liée à l'actualité, Sarah.
L'actualité, c'est bien sûr l'offensive israélienne bordure de protection sur Gaza avec cette vidéo filmée dimanche 20 juillet, juste après le bombardement du quartier de Shajaïa qui a fait 67 morts. Un groupe d'humanitaires et de civils palestiniens venus chercher des blessés pendant le cessez-le-feu a été pris pour cible par un tireur embusqué. Un membre du groupe a été tué devant la caméra. Selon Rina Andolini, une activiste britannique installée à Gaza et présente sur les lieux quand le tir a retenti, personne n'a pu secourir la victime car le risque d'essuyer de nouveaux tirs était trop important. Contactée par France 24, l'armée israélienne a confirmé que ses forces terrestres ont recours à des snipers pour abattre leurs ennemis. Le porte-parole précise toutefois qu'aucune preuve ne permettait actuellement de prouver l'authenticité de cette vidéo.
Oui, l'armée nie toujours, c'est une règle. Et de Gaza, on file vers un autre territoire en guerre, aux confins de l'Irak et de la Syrie.
Après une avancée fulgurante dans le nord de l'Irak, les djihadistes de l'autoproclamé État islamique progressent également dans l'est de la Syrie, où ils ne se battent plus tant contre les forces de Bachar al-Assad, mais surtout contre les combattants de Jabhat al-Nusra, ou Front d'al-Nusra, branche d'Al-Qaïda en Syrie. Et cette guerre ne se fait pas uniquement sur le terrain, mais également sur les réseaux sociaux. Vraies photos de l'émir du Front d'al-Nusra tué, fausses vidéos de l'État islamique présentées comme filmées en Syrie, alors qu'elle vient en réalité de Libye. Bref, les combattants des deux camps s'affrontent à coups de tweets, d'images et de vidéos sur les réseaux sociaux dans le but de s'attirer à chaque fois la sympathie de la population locale et de voler des partisans au camp ennemi.
Sarah, on boucle notre voyage avec de bien tristes images qui vous sont parvenues d'Iran.
Des couches de sable qui ont recouvert les bâtiments et les voitures, des dunes à l'intérieur des maisons, cela se passe dans la province iranienne du Sistan et du Balouchistan, autrefois grenier de l'Iran et qui s'est transformé aujourd'hui en désert. À cause d'un barrage construit de l'autre côté de la frontière, en Afghanistan, l'eau n'arrive plus dans cette région. Rien que l'année dernière, plus de 100 villages ont été ensevelis sous le sable en quelques jours, selon notre observateur Mohammad Sistani, qui vit à Zahedan, la capitale de cette province.
Les oasis devraient être classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Merci Sarah Grira. On peut retrouver les observateurs sur le site observers.france24.com. Jokers est un groupe de rock venu d'Égypte de facture très classique qui chante en anglais. Il s'est formé en 2010 autour de Georges Aboutar avec Sherif Tarek à la batterie et Abou Seif à la guitare solo. The Joker est leur titre emblématique.
One day he was running down the streets, people wondering afraid of God's beats. It was a rainy day. The Joker went down trying to find a place to pray. He saw a boy saying, "Stop,
stop!
Say, what are you afraid of? A raindrop?" Like a toad, a man took him for a ride. He took him far away to the other side. The rain stopped pouring out and I started laughing out loud. I said, na 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 na, ha ha. I said, na 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 na, ha ha.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour Eric.
Michel, la presse israélienne ne parle pratiquement que de l'offensive militaire.
Oui, absolument. Par contre, le bombardement d'une école de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, eh bien, on en parle dans la presse israélienne, mais dans les pages intérieures qui reprennent la position du porte-parole de l'armée à ce stade, il n'est pas clair qui a tiré sur qui. Mais Eric, ce qui remplit la une des journaux de ce week-end, c'est ce que les commentateurs qualifient ici de miracle. L'opération Bordure Protectrice, peut-on lire dans Maariv, a permis de découvrir pratiquement par hasard l'ampleur de la ville souterraine de Gaza, les fameux tunnels qui mènent du territoire palestinien au kibboutz le long de la frontière et qui devaient servir à un méga attentat en septembre prochain. Et du même coup, les éditorialistes, presque à l'unanimité, pose la même question. Comment un pays comme Israël, qui possède des satellites espions, une technologie de pointe et des services secrets connus pour leur efficacité, a pu être surpris par ce réseau de tunnels? Les journaux parlent de fiasco et appellent à la création d'une commission d'enquête sur ce sujet lorsque le calme sera revenu. Nous allons gagner, proclame un général à la retraite dans Maariv, et c'est le ton général adopté par la presse israélienne, à une exception, le quotidien Haaretz, qui prend des positions critiques à l'égard de l'offensive israélienne et qui affirme dans son éditorial « En temps de guerre, on ne doit pas se taire ».
Alors justement, Michel, en règle générale, les commentateurs se prononcent-ils en faveur ou contre toute trêve ?
Un chroniqueur qui est lui-même un ancien chef des renseignements militaires le souligne. Un règlement politique est toujours préférable, mais il ne peut réussir sans des avantages tactiques sur le terrain et de l'avis général. Dans les heures qui précèdent l'entrée en vigueur d'une trêve, les deux parties vont faire le forcing pour marquer des points sur le terrain. Pour Israël, c'est l'arsenal de roquettes du Hamas. Et pour le Hamas, la cible privilégiée, eh bien, c'est l'aéroport Ben Gurion, afin de provoquer un nouvel arrêt des vols à destination d'Israël.
Et puis, Michel, un journal regarde ce conflit avec d'autres yeux, ceux de la finance.
Le quotidien économique Globe se penche sur la voie empruntée par l'argent du Hamas, l'argent qui a notamment permis la construction de ces tunnels de Gaza et aussi l'achat et la fabrication de roquettes. Et bien selon le journal, l'argent passe par deux établissements financiers, la Banque arabe et la Bank of China. Le journal rappelle que les travailleurs à Gaza gagnent en moyenne 3 dollars par jour et que le chef de la branche politique du Hamas, Khaled Mashal, a lui une fortune évaluée entre 2 et 5 milliards de dollars, selon les estimations. Et derrière tout cela, souligne Globe, se trouve un émirat, le Qatar.
Alexandre, Gaza fait également et toujours la une des journaux arabes qui lui consacrent de nombreux reportages.
Oui, le journal Haya intitule son reportage « Sur les cadavres à la recherche d'un refuge ». Alors il raconte l'histoire de Mouna Halas, 29 ans, une journaliste palestinienne qui a fui sa maison située dans le quartier de Shujaïa à Gaza avec son fils et sa mère. Alors un quartier bombardé par les Israéliens et donc Mouna se refuge chez des parents dans un autre quartier, Al-Tufaha, qui lui aussi est bombardé. Et elle décrit leur terreur pendant qu'ils couraient sur les gravats parsemés de cadavres. Al-Sakraoui consacre son reportage aux équipes de sauvetage palestiniennes et aux conditions infernales dans lesquelles elles travaillent. Et puis la chaîne de télé égyptienne MTV consacre un reportage aux musulmans qui se sont réfugiés dans une église grecque-orthodoxe de Gaza.
Gaza toujours, Alexandre, mais cette fois les analyses et les éditoriaux de la presse arabe.
Alors un éditorial estime en fait que le drame de Gaza est dû à un surplus de puissance israélienne et à la politique stérile du Hamas. Une situation qui entraîne une guerre sans fin, selon un autre éditorial, tandis qu'un troisième estime que, quelle que soit l'issue du conflit, la solution des deux États, un État israélien et un État palestinien vivant côte à côte, cette solution aura été exécutée par Israël avec l'aide du Hamas.
Michel Paul, une information pourtant non négligeable a pratiquement été passée sous silence. Israël a un nouveau président.
Passation de pouvoir discrète en raison de la situation. Reuven Rivlin a succédé à Shimon Peres. Les députés arabes de la Knesset, soulignent les journaux, ont boycotté la cérémonie. Seul l'écrasement du terrorisme permettra de sauver des vies innocentes, proclame le nouveau président. Et la presse salue Shimon Peres, qui va pouvoir continuer à rêver d'un Proche-Orient nouveau et meilleur.
Alexandre, toujours beaucoup d'interrogations dans les journaux arabes à propos de Daesh, l'appellation arabe de l'État islamique d'Irak et du Levant.
Oui, et la presse arabe parle toujours des exactions subies par les chrétiens qui ont le malheur de se retrouver en territoire conquis par l'État islamique, que ce soit en Syrie ou en Irak. Alors, des chrétiens qui se convertissent à l'islam quand ils ne peuvent pas payer la jizya, la lourde taxe qui est imposée aux non-musulmans, tandis que d'autres partent en laissant derrière eux tous leurs biens qui sont considérés par Daesh comme butin de guerre. Les journaux se préoccupent aussi de l'extension de Daesh qui s'est décrété califat au-delà des frontières. Selon ces journaux, le pays le plus accueillant à ce genre d'idéologie est aujourd'hui la Libye, une menace pour l'Égypte, l'Algérie et la Tunisie, dont les militaires ont subi les attaques des djihadistes probablement venus de Libye durant ce ramadan.
Alors restons en Libye, si vous le voulez bien, Alexandre, avec Dragunov. C'est le titre d'un feuilleton télévisé libyen sur le soulèvement contre Kadhafi.
Oui, et le nom du feuilleton vient de ce fusil russe de sniper qui a été utilisé durant les combats. Un feuilleton qui raconte l'histoire de deux familles, l'une pro-Kadhafi et l'autre anti-Kadhafi, durant la révolution, avec une histoire d'amour entre une jeune fille et un garçon, des deux familles, une sorte de Roméo et Juliette à la libyenne.
Changement de programme, Michel, avec votre photo du jour.
Bien, ce sont bien sûr les photos des soldats tombés pendant l'opération militaire à Gaza. Elle figure à la une des journaux et c'est un sujet naturellement particulièrement sensible pour les Israéliens.
Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation François Porcheron, que l'on salue également. Vous pouvez nous retrouver sur le site de RFI, www.rfi.fr, à la rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.